France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il y a quelques années, Julien Clerc a magnifiquement chanté « N'écris pas » sous le titre « Les séparés », faisant ainsi redécouvrir ou découvrir les vers de Marceline Desbordes-Valmore. Admiré, encensé par Balzac, Verlaine, Baudelaire ou Aragon, l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore a pourtant été trop souvent ignorée et sous-estimée. On donnera plus volontiers son nom, encore que très rarement, à une ruelle ou une école maternelle qu'à une avenue ou un lycée. Nadar n'aura pas servi sa postérité. Il nous laisse d'elle la photographie d'une vieille dame fort laide, au visage accablé par les épreuves de l'existence. Cette image trompeuse de sombre bigote de province ne dit rien de ce qu'aura été Marceline Desbordes-Valmore, rien de la richesse de sa poésie, rien de sa liberté, de ses amours, rien de la force de ses élans et de ses indignations. Comédienne et chanteuse avant de devenir poète, écrivain, elle avait elle-même mis en musique certains de ses poèmes. Ils le furent aussi par Henri Ouellette, Camille Saint-Saëns, Reynaldo Hahne, Rossini et César Franck. Retour dans cette émission de 1995 sur la vie et l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore.
Et ça, qu'est-ce que c'est, ces jolis petits livres-là ?
Bien, au XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, on avait l'habitude de faire aux dames et aux demoiselles cadeaux de petits livrets au 1er janvier. Et ces livrets étaient composés de, ça s'appelait la guirlande des dames, le souvenir des ménestrels, il y a toute une série de noms absolument délicieux comme ça, avec des petites gravures en acier. Et de la musique gravée très souvent, et Marceline avait l'habitude, avant son mariage et même après, d'écrire dedans. C'est là que, avec certains journaux, ses premiers poèmes ont été publiés.
Oui, d'ailleurs, il y a un Grétry des dames. Or, Grétry a mis en musique, justement, ses romances, ses chansons.
Certaines de ses romances, oui.
Elle se situe à une place qu'on lui accorde, qu'elle sait être la sienne, et de l'intérieur de cette place, je crois qu'elle va vers autre chose. La parole qui naît à cette place est irréductible au cliché auquel on voudrait la réduire, que ce soit l'amoureuse éplorée, la mère douloureuse, ou bien les petites choses un peu insignifiantes pour enfants. Hein, parce que l'image qu'on a longtemps eue dans l'histoire littéraire de Desbordes-Valmore, surtout via les livres de classe, c'était celle d'un poète pour enfants, avec un tout petit enfant qui allait à l'école, avec l'oreiller d'une petite fille, donc des choses tout à fait convenues, hein, qui donnaient d'elle une image assez insignifiante, en couleur pastel, enfin, ou bien des choses pleines de bons sentiments, ou d'émotions saint-sulpiciennes. Bon, et en fait, il y a d'autres accents dans l'œuvre, que ce soit les accents de la passion, que ce soit les accents de la dénonciation politique, il y a bien d'autres choses.
Une vie, une œuvre, Marceline Desbordes-Valmore ou la transparence de la voix, par Marie-Christine Navarro, réalisation Jean-Claude Loiseau.
Mais d'ailleurs, je tombe un peu au hasard, vous voyez, mais pour répondre à « D'autres pauvres viendront, c'est en haut qu'ils habitent ». Vraiment, ça me plaît, ça me suffit d'ailleurs. Et elle dit « N'êtes-vous qu'une voix parcourant l'univers ? » C'est-à-dire, cette chose réfractaire, insurgée, une fois qu'on s'est suffisamment perdu de vue soi-même, quoi, c'est quand même assez important de trouver des alliés. Quoi.
Patrick Lopin, poète.
Ce qui est très émouvant à Lyon, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a quasiment aucun rappel de la présence de Marceline Desbordes Valmore, quasiment aucune plaque commémorative, enfin rien. Et pourtant, elle a longuement écrit là-bas, donc sur l'insurrection de 1830. Et puis aussi, elle a longuement écrit à Ondine, sa fille qui est morte jeune, d'ailleurs, qui écrivait des vers fulgurants comme « Je redoute l'automne, je crains l'orage, mais septembre va venir, car midi est terrible, car midi porte l'éclair. » Et des vers tout à fait fulgurants. Enfin, depuis longtemps, ce que je trouve très extraordinaire chez Marceline Desbordes Valmore, c'est un peu comme chez Germain Nouveau dans La Doctrine de l'amour ou Tristan Corbière, c'est que ce sont des êtres humains qui se sont laissés d'abord traverser par l'écriture. Et ce n'est pas une question bête, mais très difficile à rejoindre. C'est-à-dire, ils ont la vie dépasse infiniment le langage. Donc, ils n'ont pas ce côté formel d'essayer d'enserrer l'expression. Et notamment, donc c'est très visible chez Germain Nouveau, il y a énormément de scories et les merveilles surgissent. Je pense d'ailleurs que, et c'est pareil chez Marceline Desbordes Valmore, c'est-à-dire, je pense que faisant ça, ils font d'ailleurs acte de pensée, puisque lorsqu'ils laissent surgir la voix, toute la structure du langage est donnée en abîme, en quelque sorte. C'est donc le moindre vers de Marceline Desbordes Valmore est une sorte de méditation instante, enfin de prière, et on entend le temps du lamento, la ponctuation.
Ma sœur, il est parti. Ma sœur, il m'abandonne. Je sais qu'il m'abandonne. Et j'attends. Et je meurs. Je meurs. Embrasse-moi. Pleure pour moi. Pardonne. Je n'ai pas une larme et j'ai besoin de pleurs. Tu gémis que je t'aime. Oh, jamais le sourire ne te rendit plus belle au plus beau de nos jours. Tourne vers moi les yeux si tu plains mon délire. Si tes yeux ont des pleurs, regarde-moi toujours. Mais retiens tes sanglots. Il m'appelle, il me touche. Son souffle en me cherchant vient d'effleurer ma bouche. Laisse, tandis qu'il brûle et passe autour de nous, laisse-moi reposer mon front sur tes genoux.
Douai, musée des Chartreux, salle du 19e siècle. Nous entrons dans cette salle où il y a quelques tableaux qui ont été sortis par Madame Baligan, qui est conservatrice au musée des Chartreux. Et nous nous arrêtons devant la première toile, le premier portrait de Marceline, peint par Martin Drolling. Est-ce que vous pouvez décrire ce tableau ?
Alors, c'est un tableau qui est bien caractéristique de cette peinture néoclassique du début du XIXe siècle. Et Martin Drolling nous dépeint un intérieur qui s'ouvre par une porte et sur une fenêtre sur l'extérieur. Et ça, c'est une composition qu'il a retenue des maîtres flamands du XVIIe siècle. On pense à tous ces peintres hollandais, à ces successions de ruelles, de fenêtres ouvertes sur des petites cours, sur des jardins. Donc on retrouve un petit peu cette même composition ouverte sur l'extérieur. Et puis nous sommes dans un intérieur bourgeois mais assez simple. Marceline est assise à son bureau. Sa guitare est posée sur la table et derrière il y a un divan de repos et sa servante. Elle attire un petit peu vers l'extérieur, elle est penchée au balcon et elle regarde comme si elle appelait le spectateur à pénétrer dans la scène.
À la bibliothèque de Douai, ville natale du poète, avec Michel Demarcy, responsable du fonds Marceline Desbordes Valmore.
Je les ai souvent regardés, ces portraits. Ce qui est évident, c'est que Marceline n'était pas belle.
Et elle avait sûrement des yeux splendides que la statuaire, comme celle de Bras, ne peut pas rendre. Mais que par contre, nous avons assez bien présent devant nous quand nous regardons cette photo de Nadar ou alors la reproduction du Goya. Elle avait de très grands yeux, souvent cernés par l'éveil, par la maladie, même quand elle est jeune, comme sur celui de Goya. Mais on retrouve sur la photo de quelques années avant sa mort, on retrouve cette même regard complètement enfoncé dans les orbites. Elle avait une bouche qui n'est pas très belle, mais qui est expressive et qui est assez grande. Ce qui transparaît, je crois, c'est une très grande bonté.
Aux archives départementales de Douai, avec Monique Mestayer, archiviste.
17 juin. Voilà. L'an 1786, le 22 juin, je, curé soussigné, ai baptisé une fille, née le 20 du 10 mois, 5 heures du matin, en légitime mariage du sieur Antoine-Félix Joseph Desbordes, maître peintre, et de Catherine Joseph Lucas, habitant de cette paroisse, à laquelle on a imposé le nom de Marceline Félicité Joseph. Le parrain a été M. Jacques-Joseph Crunel, avocat au Parlement, de la paroisse de Notre-Dame de la Chaussée à Valenciennes, et la marraine Dame Marie Marceline Hochard, épouse de Maître Jonquet, avocat au Conseil d'Artois, de la paroisse de Saint-Nicaise, en la cité d'Arros.
Dans cet acte de naissance, il est dit que le père de Marceline était un maître peintre. Alors ça correspondait à quoi exactement à l'époque ?
Je pense que, au moins pour le père de Marceline, cela correspondait à un métier d'art. Il était peintre, non pas en bâtiment, mais peintre d'ornement. En particulier, il peignait, il dorait. Il était aussi considéré comme maître doreur, les carrosses, les armoiries, et éventuellement, probablement, des tableaux d'ornementation dans les maisons ou des tableaux, des portraits pour les familles douaisiennes, disons.
Est-ce que l'on peut dire que le milieu familial, le milieu social où elle naît, est au fond un milieu d'artisan à cette époque ?
Oui, mais peut-être un peu plus que cela. C'est vrai que c'est un métier artisanal, mais un métier artisanal un peu intellectuel, disons. Et puis, il était également maître multinier, c'est-à-dire tisserand, ou plutôt préparateur de fils pour le tissage. Et là, c'était vraiment un métier artisanal. Mais il avait aussi acheté une charge de conseiller du roi et... C'était donc quelqu'un qui était d'un milieu social un petit peu plus élevé que le simple artisan.
Quand vous dites qu'il avait une charge auprès du roi, il faut savoir aussi que ce père, Félix, va ensuite, au moment de la Révolution, disons changer d'avis, ou en tout cas avoir ses entrées dans les milieux révolutionnaires.
C'est vrai qu'au moment de la Révolution, les parents de Marceline, et même l'ensemble de sa famille, disons, ses deux oncles en particulier, et une de ses tantes, ont vraiment épousé la cause révolutionnaire. Les trois frères Desbordes ont fait partie de la société populaire, donc de cette espèce d'association qui regroupait tous ceux qui militaient pour la Révolution. Ils ont fait partie, tout au moins le père de Marceline a fait partie de la garde nationale. Il s'est occupé également des distributions de vivres pour les pauvres et il a fait partie de l'administration municipale à un moment, puis de l'administration même du département dont le siège était alors à Douai et non pas comme maintenant à Lille. Et donc, il a épousé les idées nouvelles, effectivement.
Dans l'enclos d'un jardin gardé par l'innocence, j'ai vu naître vos fleurs avant votre naissance. Beau jardin, si rempli d'œillets et de lilas, que de le regarder on n'était jamais là. Alors les blonds essaims de jeunes Albertines qui hantent dans l'été nos fermes citadines venaient tourner leurs danses et cadencer leurs pas devant le beau jardin qui ne se fermait pas.
Marceline était d'une très vieille famille flamande, il faut entendre le sens flamand, sans souci des frontières.
Francis Ambrière, auteur d'une biographie de Marceline Desbordes de Valmore.
Et malheureusement, le père de Marceline n'a pas suivi le chemin de ses devanciers. C'était un homme charmant, fantaisiste. Certainement, il y avait un goût de l'art dans la famille, puisque l'un des oncles de Marceline, Constant Desbordes, a été
peintre.
Un bon peintre. Non pas un grand, mais un bon peintre. Et alors, le père de Marceline, hélas, lui, a ruiné les siens, et la discorde s'est mise dans le ménage, et finalement, les époux se sont séparés, ou pour dire la vérité, la mère de Marceline...
Catherine-Joseph-Lucas.
Catherine-Lucas, oui, s'est enfuie avec un amant. Et elle ne s'est pas enfuie seule, elle avait une direction particulière pour la plus jeune de ses filles qui était Marceline, elle l'a enlevée avec elle. Ainsi, à l'âge de 10 ans, voilà une enfant qui quitte le foyer et la ville d'où n'était jamais sortie pour courir les aventures.
Que j'aimais à te voir, à t'attendre, Albertine, à te deviner seule en écoutant tes pas. Oh, que j'aimais mon nom dans ta voix argentine. Quand je vivrai toujours, je ne t'oublierai pas.
Le quartier de Notre-Dame était assez typé, il y avait pas mal de familles ouvrières, il y avait également un certain nombre de gens un peu plus riches. C'était une des paroisses pas très grandes de la ville, donc un quartier relativement petit et un peu coincé au pied du rempart de la porte de Valenciennes qui s'appelait à l'époque Porte Notre-Dame et qui existe toujours, qu'on peut donc voir, et au pied de l'église Notre-Dame. Qui est donc l'église que voyait Marceline quasi de sa maison, puisqu'elle était à 20 mètres, 30 mètres de Notre-Dame. Et cette église a beaucoup marqué son enfance, le cimetière tout autour, le puits, les maisons autour de l'église, tout ceci a marqué son enfance et on retrouve ses souvenirs, à la fois dans ses lettres, dans ses poésies également. Un certain nombre de poésies se passent et évoquent la ville de Douai, se passent à Douai, évoquent la ville de Douai, évoquent l'église Notre-Dame, évoquent la Scarpe, la rivière qui traverse Douai, évoquent les camarades avec lesquels elle a joué. Et elle a conservé des amitiés d'enfance très longtemps. Elle a correspondu avec des Douaisiens quasi jusqu'à sa mort. Donc, si vous voulez, elle a toujours conservé dans son esprit, dans son âme, en quelque sorte, le souvenir de cette enfance.
Le cimetière Notre-Dame était alors le rendez-vous de toutes les petites filles de cette rue paisible. Elles allaient s'asseoir et faire des bouquets, parfois même danser autour des tombes vertes. Elles y portaient leurs paniers d'école pleins de fruits, de pain d'alouette, d'herbes fines et aromatiques, mêlés au beurre et au laitage choisi des jours de fête. Ce banquet dressé sur la plus haute tombe qui servait d'autel à l'innocent sacrifice ne réveillait les morts que pour les faire sourire. C'est là que, dans le creux d'une muraille effondrée, au-dessus de la margelle d'un vieux puits sans eau, se soutenait encore le Christ flagellé, couronné d'épines et les mains liées de cordes. Cette figure en pierre grise, d'un travail incorrect et rugueux, faisait une impression ineffaçable sur les femmes qui passaient et sur les jeunes filles qui s'y rassemblaient en rond pour jouer au bouquet. Le bouquet est le nom figuré du jeu d'osselet auquel elle consacre de longues heures de récréation silencieuse. Il est gai de les voir assises sur quelques larges pierres unies propices au rebondissement de la petite bille de marbre jetée en l'air, tandis qu'elles arrangent en dessous, comme des fleurs, les osselets éparpillés sur le sol. Ils sont bientôt relevés un à un pendant l'ascension et la chute de la bille, jusqu'à l'entière réunion des osselets, recueillis à la fin et rassemblés en bouquets dans les doigts légers des joueuses. C'est là que se termine la partie, où la main droite est seule admise à cet exercice gracieux. On le croit encore aimé des jeunes filles de Flandre. Elles y laissent couler leurs belles heures, assises en cercle, jouant et jugeant tour à tour, attentives et muettes comme des poissons. Ce jeu sédentaire, sous la pure et large influence d'un ciel ouvert, laisse, on le dirait, une expression réfléchie sur tous ces visages adolescents, ronds comme des fruits, calmes comme l'innocence.
Marc Bertrand, éditeur des œuvres complètes de Marceline Desbordes de Valmore, en particulier des œuvres en prose telles que « Domenica » ou « Les petits flamands », où le poète retrace les principaux épisodes de sa vie, ce qu'elle fera aussi dans son roman en partie autobiographique « L'atelier d'un peintre ».
Il y a d'ailleurs, je crois, si on veut comparer les deux blocs autobiographiques, beaucoup moins de fiction dans les petits flamands qui sont vraiment assez proches de la réalité, à tel point que les prénoms ne changent quelquefois pas du tout. Les sœurs s'appellent comme elles s'appellent vraiment, la grand-mère existe comme elle existe vraiment, les coutumes sont les mêmes, les pièces même de la maison qui sont décrites, on a prouvé que c'était les pièces mêmes qui existaient, donc nous sommes très proches de la réalité. Alors, et c'est très instructif.
Alors justement, au niveau de ce qui est instructif, c'est intéressant, par exemple, l'ouverture des petits flamands, le premier chapitre, où on raconte des coutumes flamandes
mais
de
oui,
l'époque.
Mais oui, cette coutume en particulier des Saints Innocents le 28 décembre, où les enfants deviennent les rois, revêtent l'habit du grand-père, la robe de la grand-mère, etc. C'est d'autant plus intéressant que dans la rue où habitaient les Desbordes, les parents de Marceline, il y avait deux rangées de maisons, deux rangs, comme on disait alors, le rang des bourgeois et le rang des prolétaires. Inutile de vous dire qu'elle était dans le rang des prolétaires. Et l'événement le plus intéressant, c'est celui où le voisin, le riche bourgeois, le petit-fils du propriétaire des Desbordes, vient dire à Agnès, c'est-à-dire Marceline, qu'est-ce que tu as eu pour tes étrennes, si l'on peut dire. Eh bien, j'ai eu une pomme et un œuf à partager entre mon frère et moi, alors que le petit-fils du propriétaire a eu du gibier, du vin, de la musique, etc. Et évidemment, Agnès fond en larmes, jusqu'au moment où le petit-fils du propriétaire demande, puisqu'il est le roi d'une journée, à son grand-père de lui donner la quittance des loyers impayés pour lesquels il y avait menace de saisie, et va les porter aux petits Desbordes qui évidemment sont joyeux à l'extrême, et la joie revient donc dans ce foyer qui en manquait beaucoup.
Est-ce que ça signifie que dans son œuvre, il y a une reconstruction du Douai de son enfance? C'est-à-dire que c'est à partir des lambeaux de son enfance qu'elle va reconstruire un Douai rêvé, imaginaire, qui n'est pas forcément toujours celui que l'on connaît à cette époque, en particulier marqué par la Révolution.
Oui, bien sûr. Marceline a 3 ans. En 1789, lorsqu'elle quitte Douai, à l'âge de 10 ans, nous sommes en 1796. Donc tous ces souvenirs datent de la Révolution.
Georges Dautin, éditeur de l'Atelier d'un peintre.
Et la ville de Douai, pendant la Révolution, ne devait pas être très gaie. D'abord parce que les Autrichiens, à un moment donné, étaient tout près, n'est-ce pas? Ils sont arrivés à Orchy, donc à moins de 20 kilomètres de Douai. Donc la ville était en effervescence, comme vous le pensez bien. Les prisons étaient pleines. Et quand je dis les prisons, c'était en fait les couvents et les anciens collèges universitaires qui étaient transformés en prisons. La Convention se méfiait de la ville de Douai parce que c'était une ancienne ville parlementaire et c'était une ville qui, paraît-il, était trop modérée. Et dans l'atelier d'un peintre, effectivement, Marceline nous dépeint sa vie de très jeune fille à Douai, mais elle veut nous faire croire, ou elle s'imagine, qu'il s'agit d'une espèce de révolution de velours. Sans violence, sauf des violences insignifiantes. Elle nous parle de la guillotine qui était dressée sur la place d'armes à Douai, et elle termine son chapitre en nous disant, parlant de Douai, elle avait d'abord écrit « Cette ville, vierge alors de sacrifices sanglants ». Et puis elle raye sa phrase et elle écrit « Cette ville, resta vierge de sacrifices humains ». Autrement dit, si on prend le texte du roman au pied de la lettre, il n'y eut jamais aucune tête coupée à Douai. Or, il se trouve que c'est absolument faux. Il en eut moins qu'à Arras. À Arras, on arrive à 400 exécutions. À Douai, ça tourne autour d'une 50-60. Ce qui m'intéresse, et que je voudrais bien savoir, et que malheureusement nous ne saurons jamais, c'est si Marceline, qui avait en 94, n'est-ce pas, 8 ans, si elle avait eu l'occasion, soit avec son père, qui était un révolutionnaire de type bavard et excité, soit avec son grand frère ou ses grandes sœurs, avait eu l'occasion d'assister à une de ces exécutions. Mais cela, nous ne le saurons évidemment jamais.
À Inès, parole de Marceline Desbordes de Valmore, musique de Victor Gallois.
T'es ma poule, t'es le petit cœur qui roule tout alentour de mon cœur. T'es le petit Jésus, ta mère. Tiens, n'y a pas souffrance amère. Que ma fille n'en soit le vainqueur, que ma fille n'en soit le vainqueur. Qu'est-ce que ça me fait si manque quelque chose quand je vois ton petit nez tout rose? Tes dents blanches comme des jasmins. Prends tes yeux pour mes étoiles, et quand je te sors de tes toiles, je tiens le bon Dieu dans mes deux mains, je tiens le bon Dieu dans mes deux mains.
La révolution vient, ruine sa famille qui connaissait l'aisance, et puis voilà qu'elle part.
Georges-Emmanuel Clancier.
Sa mère était très romanesque aussi, elle est bien imprudente. Partir aux Antilles comme ça à la recherche d'un cousin peut-être fortuné. Et voilà, cette femme et sa toute jeune fille arrivant encore en pleine révolte aux Antilles, c'est assez prodigieux comme destin. Et ça ne fait que commencer ensuite la longue succession de fracas, de malheurs que va connaître Marceline.
La mort de la mère.
Et voilà, et là, cette Marceline est habitée par une lumière, par un sens de la langue, par un cœur sans doute tout à fait pur. Quand j'entends pur, je ne parle pas de puritanisme du tout, mais d'authenticité, de non-chiqué, par rapport à ses contemporains.
Bon, vous avez ici des dessins qui représentent Hippolyte, son seul fils, et Hippolyte, dont le dessin tout à fait charmant est dû à l'oncle de Marceline, Constant Desbordes, ou Desbordes, comme on veut. Et de la même façon, nous avons, alors là c'est encore plus touchant, peu de temps avant la mort, une vraie photo d'Ignès, sa troisième fille, qui est là comme une petite pensionnaire bien sage avec les boucles. Elle est morte à 18 ans, hein. Et de phtisie comme sa sœur Ondine, que vous voyez là, rêveuse et qui était l'intellectuelle de la famille. Elle a fait toutes les études que Marceline n'avait pas pu faire. Et après, elle s'est mariée à un homme sérieux, sévère, veuf, qui avait des enfants avec lesquels elle s'est admirablement entendue. Et elle a eu une vie d'adjointe d'enseignement, puis de professeur, et elle est devenue l'une des premières inspectrices de l'enseignement public de filles. C'est un destin extraordinaire. Elle est morte peu de temps après la mort de son premier et seul enfant.
Il faut avoir été profondément altéré par l'infortune pour se retirer dans son propre cœur et fuir à l'aspect de son semblable. Le docteur Alibert. Alibert, physiologie des passions. Un peu plus loin. Ô Dieu, fortifie ma foi. Prière. Apprends-moi à reconnaître, même pendant cette nuit d'horreur, que ta miséricorde est plus grande que les maux qui nous accablent et que tu as toi-même tracé les sentiers de la destruction où la misère atteint le juste. Dans la bibliothèque de Douai, nous sommes en train de feuilleter des albums qui sont très émouvants parce que ce sont les albums de Douai, ce sont les albums dans lesquels Marceline, de sa propre main, ou de la main d'Ondine, parfois, a recopié une sélection de poèmes. Ce sont des pages que l'on tourne, jaunies par le temps, avec des fleurs séchées à l'intérieur, des coquelicots fanés, des trèfles à quatre feuilles, quelques cheveux aussi. On voit Marceline en train, ici, d'écrire ou de lire, petit dessin à l'encre, qui est charmant tout en haut de la page, juste en face d'un poème, où ma chère charmante mère... Et puis aussi des peintures comme celle-ci, données par mon fils avant de le quitter, mais non fait par lui, entre parenthèses. Et donc on feuillette cette série d'albums avec beaucoup d'émotions. La tranche en est dorée et il y a là des poèmes avec quelques corrections de la main de Marceline.
C'est que l'exil est triste, il fait rêver l'enfance. Le jeune voyageur n'a d'amis que le ciel. Il erre sans asile, il pleure sans défense, comme un oiseau perdu loin du nid paternel. Son ramage se change en plaintes douloureuses, des oiseaux inconnus, les cris le font frémir, et même en retournant sur des routes heureuses, s'il veut chanter, longtemps il semble encore gémir. À ses regrets en vain la patrie est rendue, l'orage a dispersé la couvée et perdu. Ses frères sont partis, le nid vide est tombé. En s'envolant, peut-être un d'eux a succombé.
La dernière fois, vous voyez, j'ai lu ces vers des enfants d'or de Marceline Desbordes de Valmore. Dieu donne l'intelligence aux petits, reprend-elle. Elle dit, mais que peut l'amitié, l'amour prend toute une âme, quoi.
Patrick Lopin.
C'est vrai, j'ai lu ça à des enfants qui, dans un travail d'écriture en cesse avec des cinquièmes qui écrivent en phonétique. Alors je leur ai dit que ça me faisait souci qu'ils écrivent comme on entende, qu'ils étaient sans doute surchargés, quoi. Et donc je leur ai lu des textes, mais bon, de Marceline, de Rimbaud, Villon aussi. Je me suis amusé à leur lire ce truc de Lacan, que personne, le symbole est à tous, ce qui est évident, quoi. C'est-à-dire qu'ils laissent venir l'écriture, qu'il soit traversé. Et un gosse lisait des poèmes de Marceline Desbordes de Valmore, et m'a dit, mais je peux suivre. Et puis c'est vrai que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille avec des enfants, souvent considérés comme inintelligents, et c'est intéressant de leur faire lire des poètes qui pacifient cet écart, comme disait, entre ce que l'on sent et ce que l'on peut. Et je pense que la poésie, de ce point de vue, ce qui est émouvant à jamais chez les grands poètes, comme Rimbaud, Mallarmé, Marceau, mais tant d'autres, ils n'ont jamais imaginé quoi que ce soit leur appartienne dans la langue. Donc je lisais ces vers de Marceline Desbordes de Valmore à un enfant. C'est stupéfiant. Immédiatement, il a écrit, il a dit, autant des appareils extrêmes de la terre, écoutant doucement par une oreille des langues, des merveilles, des carèmes d'amour. Où il a été chercher ça, des carèmes d'amour, des gens volés dans un pré, de la vérité sans soleil éclairée par leur lumière. C'est tout à fait. Et quand on leur donne, un enfant m'a dit récemment, ça se fait en un seul sens pour être immense. À propos des vers de Marceline, c'est tout à fait étonnant quand même. Il y en a un autre qui est parti sur la théorie des nuages, et parce que je lui ai dit laisse tomber le foot, et puis justement on lisait des vers de Marceline Desbordes, il voulait écrire sur le foot. Alors, je n'ai pas dit comme dit Mallarmé, on n'écrit pas sur mes dents, mais je le laissais entendre, il a bien vu, alors il m'a dit mais où je vais si je laisse tomber le foot. Alors j'ai dit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vois, quoi. Il m'a dit, tout de suite dehors, quand il m'a dit « je vois des nuages ». J'ai dit « bon, des nuages ». Et ils sont, comment il m'a dit « dans les nuages, je vois des formes sans forme ». C'était prodigieux pour un « des formes sans forme ». D'où partent les poètes, quoi, de cet indicible, des formes sans forme. Bon, et pour aller vite, il m'a dit, et des nuages imparables, quoi, imparables. Après, les enfants sortent des chambres de la violence, voient des formes sans forme, des nuages imparables, quoi. Et alors, en parlant des réfractaires, parce que, bon, il y a des textes qu'il faudra retrouver de Marceline, enfin, des bords de Valmore, parce que le nom est très très beau, sur l'enfance. Et je crois que c'est très très vrai, quoi, ce qu'elle dit. Elle retourne tout le temps à l'enfance. Bah, elle dit, mais l'enfant ne sait pas qu'apprendre, c'est courir, et qu'on lui donne assis le monde à parcourir, voir, l'enfant veut voir les doux bruits de la rue. Albertine charmante à la vitre apparue, élevant ses bouquets, ses volants. Il y a des gestes aussi dans ce qu'elle dit, quoi. Hein, les jeux qui m'attendaient ne commençaient pas, vers merveilleux. Oh, le livre avait tort. Oh, le livre avait tort. Tous les livres du monde ne valaient pas un chant de la lointaine ronde où mon âme sans moi tournait de main en main quand ma sœur avait dit « Tu danseras demain ».
Je veux aller mourir au lieu où je suis née. Le tombeau d'Albertine est près de mon berceau. Je veux aller trouver son ombre abandonnée. Je veux un même lit près du même ruisseau. Je veux dormir. J'ai soif de silence, d'innocence, d'amour. D'un long silence écouté sans effroi. De l'air pur qui soufflait au jour de ma naissance, doux pour l'enfant du pauvre et pour l'enfant du roi. J'ai soif d'un frais oubli, d'une voix qui pardonne. Qu'on me rende Albertine, elle avait cette voix qu'un souvenir du ciel à quelque femme donne. Elle a béni mon nom, autre part, autrefois. Viens encore, viens, j'ai tant de choses à te dire. Ce qu'on t'a fait souffrir, je le sais, j'ai souffert. Ô ma plus que sœur, viens, ce que je n'ose écrire, viens le voir palpiter dans mon cœur entrouvert.
Alors, entre-temps, elle publie quand même, c'est à remarquer, en 1807, une première romance.
Oui, oui.
Et elle commence à écrire à ce moment-là.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, qu'est-ce que c'était, les romances, justement?
Ben, c'était, vous savez, Grétry était fort à la mode, et il avait... Boieldieu va être un des grands musiciens chéris de son temps, n'est-ce pas? Et on avait le vers, on n'avait pas la poésie, mais le vers facile au 18e, et c'était l'héritage qui se prolongeait. On n'était plus plaisant ou épigrammatique comme avant, comme sous l'Ancien Régime. On était sensible. On chantait les amours, la rose, le printemps, etc. Et Marceline a suivi tout simplement la mode.
Et tout cela était mis en musique souvent. Elle chantait elle-même.
C'est toujours mis en musique.
La fileuse. Le ciel est haut, la lune est rouge et pleine, le tisserand chante à manquer d'haleine. La terre tourne et travaille tout bas. Et mon fuseau pourtant ne tourne pas. Et mon fuseau pourtant ne tourne pas. Mon lin se casse. Ma main, hélas, sans toi, soleil, j'ai tant sommeil. Mon lin se casse, ma main, hélas, sans toi, soleil, j'ai tant sommeil.
de mon rouet, le bruit me berce l'âme. J'ai les yeux gros de regarder la flamme. Aube, chère aube, à quand votre retour? Je filerai quand filera le jour. Je filerai quand filera le jour. Mon lin se casse, ma main, hélas, sans toi, soleil, j'ai tant sommeil. Mon lin se casse, ma main, hélas, sans toi, soleil, j'ai tant sommeil.
Ces airs sur lesquels elle essayait les poèmes qu'elle chantait, cela peut annoncer un autre témoignage semblable d'un grand poète, Apollinaire, qui disait aussi que,
Christine
pour
Planté.
S'expliquer sur la suppression de la ponctuation dans Alcool, que les poèmes étaient destinés à être chantés sur des airs de sa façon. On a beaucoup rêvé sur ces airs qui pourraient être la source ou le modèle d'un renouvellement de la parole poétique. On peut dire que cela est déjà présent chez Desbordes Valmore, et il est très difficile de dire si dans ce cas-là, l'air, la musique, c'est une réalité ou c'est une métaphore. Il y a probablement des réalités parce que certains poèmes s'inspirent de chansons traditionnelles, parce que elle reprend des rythmes, en particulier des rythmes impairs qui viennent de la chanson traditionnelle, mais c'est peut-être aussi un modèle, et en particulier un modèle alternatif au grand vers classique de la poésie française.
Et en cherchant parmi les poésies populaires de l'Artois, et l'Artois ce n'est pas bien loin de Douai, j'ai trouvé une version des Trois Jeunes Tambours, une chanson populaire bien connue, qui nous offre exactement ce rythme 5 plus 6 égale 11. Voici le premier vers de cette chanson. Trois jolis tambours revenant de la guerre. Le plus jeune des trois, il avait une rose. La fille du roi était à sa fenêtre. Mon joli tambour, donnez-moi votre rose. Et voici une chanson donc en vers de 5 plus 6.
Et finalement, je crois que une des sources de la singularité, du pouvoir d'innovation de Desbordes Valmore en matière prosodique et métrique, c'est peut-être ce jeu sur plusieurs formations. À la différence des grands poètes de sa génération, elle n'a pas fait d'études classiques, elle n'a pas fait d'humanité, elle n'a pas pratiqué les vers latins et grecs. Donc elle a une formation qui vient pour partie de la littérature française, mais qui vient aussi du théâtre, qui vient de la chanson, qui vient des cantiques, qui vient des contes. Et probablement le jeu entre tous ces modèles, qu'ils soient délibérés ou qu'ils affleurent sous forme de réminiscence, permet le surgissement de rythmes nouveaux et de libertés qui n'appartiennent qu'à elle.
Vous aviez mon cœur, moi j'avais le vôtre. Un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu.
Ne suis-je pas aussi captivant? Ne suis-je pas aussi captivant? Je devrais gémir comme vous. Je devrais gémir comme vous. Mais Françaises, ma gaieté vive, ma gaieté vive.
C'est vraiment sa carrière sur les planches qui compte. Si vous voulez, elle écrit par besoin, par une espèce de nécessité qui commence à s'imposer chez elle, mais elle écrit un peu comme tout le monde. Tout le monde faisait des vers, tout le monde faisait des romances, n'est-ce pas, à l'époque. Et elle est, attention, cantatrice avec un faible filet de voix, mais une sensibilité très juste.
Mais elle a un succès à l'opéra et à l'Odéon également.
Mais oui.
Elle a connu les plus grands artistes, les plus grands comédiens de l'époque, Mademoiselle Mars, Mademoiselle Georges, Madame Saint-Aubin, Delia,
Jocelyne Godard,
Marie Dagoult. Elle a connu tous ces grands comédiens de son époque. Elle a démarré très jeune sur scène, elle avait 16-17 ans. Elle a démarré très jeune, elle n'avait pas tout de suite des rôles très importants. Bon, elle faisait de la présence dans des chœurs où elle chantait un peu, elle devait faire quelques pas de danse aussi. Elle n'a pas des rôles très importants tout de suite, mais quand elle a eu 20-21 ans, elle a marché très fort. Elle a marché très fort et elle avait des rôles. Elle a joué Molière, elle a joué Tartuffe, elle a joué Phèdre aussi, là où elle a connu son mari, Prosper Valmore. Ils ont joué ensemble, ils se sont donné la réplique, ils se sont aimés sur la scène. Ça a été le coup de foudre, l'explosion. Marceline était très étonnée de voir qu'elle aimait à ce point-là et qu'elle pouvait même, parce que c'est elle qui avait beaucoup d'emprise un petit peu sur son mari, et c'est elle qui a décidé qu'elle voulait l'épouser.
Elle a été une jeune fille très à la mode. Elle a été ce qu'on appelle aujourd'hui des starlettes. J'en ai une bonne preuve. Si vous lisez la Lamana des gourmands de Grimaud de la Reynière, il la cite parmi les comédiennes qui assistaient à ces réunions gastronomiques. C'était une jeune fille à la mode. Elle était faite pour réussir. Et alors, elle se trouve donc, pour en revenir à Valmore, la voilà qui suit le comédien, puisque tous les ans, à Pâques, les comédiens pouvaient et généralement changeaient de théâtre. On se promenait entre les théâtres des grandes villes, de Bruxelles à Bordeaux, en passant par Marseille, Lyon et Rouen. Voilà quelles étaient, hors Paris, les grandes scènes françaises. Alors elle suit son mari, et évidemment l'ambition d'un jeune homme beau, et qui promettait, comme Valmore, et la comédie française. Alors, il arrive à Paris, il est engagé à l'Odéon, Marceline, qui est de loisir, a composé des poèmes.
On peut peut-être s'arrêter un petit peu sur, c'est important, sur l'écriture, parce que le premier recueil est publié à ce moment-là. Il est publié en 1918. Les élégies et les romances sont publiés.
Alors ça, c'est sur ses premiers véritables poèmes, c'est là qu'elle exprime tout ce qu'elle a vécu depuis sa jeunesse, n'est-ce pas ? Depuis son adolescence. Et il y a de très beaux poèmes. Et ces poèmes, justement, c'est eux qui vont lui valoir la grande aventure, la grande rencontre sentimentale et intellectuelle de sa vie, c'est la rencontre avec Latouche. On n'insistera jamais assez sur l'importance de Latouche dans la vie de Marceline. C'était un homme de premier ordre, mais bougon, il aimait tout ce qui rendait détestable l'exactitude, l'honnêteté, l'approfondissement des choses, n'est-ce pas ? Il était fait pour ne pas réussir, et il n'a pas réussi, mais il a formé George Sand et il a formé Marceline. On lui doit tout, la littérature française lui doit tout de même beaucoup.
Il les aidait, il les poussait.
Il les formait. Il était, si vous voulez, l'instituteur des grands talents. C'est lui qui a appris à George Sand ce qu'était un roman, et à Marceline, comment on écrivait et comment on n'écrivait pas. Elles l'ont dit toutes les deux avec beaucoup de reconnaissance.
Qui pourra rendre le sentiment humilié qui tomba sur le cœur de la jeune artiste ? Quelle rougeur brûla son front et pénétra jusque dans ses yeux pour s'y baigner de larmes ? Ce fut la première illusion qui s'éteignit dans sa jeune âme. C'est triste, une illusion qui s'éteint. Triste comme le premier flambeau qui pâlit dans une fête. On dit, les autres finiront aussi. Par un mouvement involontaire, la voilà qui se met à courir, sans penser aux convenances, seulement pour changer de place, comme pour échapper à cette première raillerie du sort. Elle se sauvait. Elle ne voulait pas souffrir dans la présence de qui l'avait frappée. Elle s'en serait allée bien loin, sans retourner la tête, si elle eût été libre de fuir l'objet qui tout à coup lui paraissait menaçant. Mais quelle jeune fille peut s'en aller ? Quelle femme peut se soustraire et quitter le présent pour sauver l'avenir ? Les libres aveux, les actions courageuses, les ruptures volontaires, tout lui est interdit. On crierait au scandale. Il faut demeurer, se taire, vivre, ou mourir encore, enveloppé du voile où s'enferment les souffrances, la honte d'amour, la fièvre qui bat sous une ceinture rose et des bouquets de fête.
elle avait tout à fait conscience de la situation qui était faite aux femmes. Je dirais qu'elle s'en accommodait, ce n'est pas une contestataire, elle n'a pas un discours de subversion ou de révolte féministe, mais elle en était consciente et elle en souffrait, et elle se plaint souvent dans des lettres à des amis, hommes comme femmes, d'avoir du mal à publier, d'être victime de la condition faite aux femmes de lettres, et en particulier, après son dernier volume « Bouquets et prières », elle va avoir beaucoup de mal à publier, alors... En volume, c'est évident, hein, le dernier recueil est posthume, mais même en revue, des textes en vers et en prose. Dans Bouquet et prières, elle se pose comme une parole de femme, elle inscrit le volume dans un espace de lecture et de réception féminin, hein, lorsqu'elle dit « écrire pour celle qui pleure ». Elle répond avec pas mal d'ironie, mais... malgré tout un peu d'amertume à un critique qui avait vitupéré les femmes auteurs dans les pages de la revue des Deux Mondes. Donc elle lui répond en lui disant « jeune homme irrité sur un banc d'école ». Donc elle se situe en effet comme femme, particulièrement dans ce recueil-là. « Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire, j'écris pourtant, afin que dans mon cœur, au loin, tu puisses lire comme en partant ». Et bien entendu, selon l'ampleur de la citation, le sens n'est pas le même. Si on isole les deux premiers vers, le sens est celui d'une transgression qui convient bien à notre sens de l'émancipation et à nos exigences d'aujourd'hui. Si on cite le quatrain entier ou si on lit le poème intégralement, on s'aperçoit que le poème se donne pour une lettre de femme qui est une lettre d'amour. Une lettre d'amour d'une femme... un homme absent, probablement un homme qui l'a quitté ou abandonné, et une femme qui ne se révolte pas, bien au contraire, puisqu'elle écrit pour dire son amour à l'homme qui est parti. Elle lui dit ceci, « Je ne te tracerai rien qui ne soit dans toi-même beaucoup plus beau. Mais le mot 100 fois dit, venant de ce qu'on aime, semble nouveau. Qu'il te porte au bonheur, moi, je reste à l'attendre, bien que là-bas, je sens que je m'en vais, pour voir et pour entendre, et rêtez pas. Ne te détourne point s'il passe une hirondelle par le chemin, car je crois que c'est moi qui passerai fidèle toucher ta main. Tu t'en vas, tout s'en va, tout se met en voyage, lumière et fleurs, le bel été te suit, me laissant à l'orage, lourde de pleurs. Mais si l'on ne vit plus que d'espoir et d'alarme, cessant de voir, partageons pour le mieux. Moi, je retiens les larmes, garde l'espoir. Non, je ne voudrais pas, tant je te suis unie, te voir souffrir. Souhaiter la douleur à sa moitié bénie, c'est se haïr. » Ce poème, je dirais, s'inscrit dans une tradition qui est peut-être la tradition la plus recevable au sein de la culture française d'une poésie féminine. Quelque chose qui irait de Sappho, et surtout de Sappho réécrite par Ovide dans la 15e Héroïde, c'est-à-dire la femme abandonnée, dont l'amour est rejeté par un jeune homme qui ne veut pas d'elle et qui crie son désespoir avant de mourir, donc jusqu'à Desbordes Valmore, en passant par, disons, Racine et Phèdre. Seulement, cette parole d'abandonner, c'est aussi une parole de transgression, puisque la femme qui parle ici, qui n'est pas forcément Desbordes Valmore, hein, c'est une femme anonyme et indéterminée dans une lettre de femme, cette femme joue des deux sens d'écrire. J'écris pourtant, c'est à la fois j'écris une lettre d'amour, donc je fais un geste permis, un acte non littéraire, un acte privé, et j'écris un poème. Donc, je transgresse un interdit, je fais œuvre littéraire et je fais un acte public, puisque ce poème pourra être publié.
Et d'autre part, il y a quelque chose de tout à fait impressionnant, d'ailleurs même qui précède la psychanalyse, ou le souhait le plus pur de la littérature, c'est que ces textes sont des adresses. Ce qui pourrait apparaître à la fois psychologique ou relationnel, mais ce n'est pas ça, c'est... purement l'adresse à autrui en tant qu'il échappe, quoi. Et avec une sorte de ferveur et d'amour de langue, sans jamais chercher à maîtriser la langue. Par exemple, ce qui est très émouvant chez elle, c'est que c'est l'écrivain du ne pas, quoi. C'est-à-dire ne le dis pas, ne va pas, ou ne viens pas. Et par ce récitatif très bas, quoi, finalement, tout le souhait inexpressif presque se ramasse et passe, quoi. C'est-à-dire il y a une longue étendue, enfin une sorte de recueil orphelin, et très probablement plein de vie, quoi. C'est-à-dire aussi, c'est une voix qui accepte d'emblée la disparition. C'est aussi une voix du passage, quoi. C'est-à-dire, elle dit, tiens-toi là-bas où je vais. C'est-à-dire, ce qui nous apparaît le plus simple dans la vie, le plus évident, justement, et qu'on banalise la plupart du temps, le dit. Et je pense que seuls, d'ailleurs, des enfants perdus dans la langue ou des schizophrènes, quelquefois, pourraient nous rappeler à des gestes élémentaires qu'elle a, par exemple, donne-moi ta main, elle me manque, elle pourrait dire, par exemple, elle parle du passage de son souffle, enfin, elle dit ce que les yeux disent, enfin, elle se rappelle de tout ce qu'elle oublie, et je pense que c'est ça qui a tellement ému Baudelaire, Mallarmé, Verlaine et Rimbaud, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose dans le chant, enfin, qui... lorsqu'il s'élève chez Marceline Desbordes-Valmore, ne la trahit pas, quoi.
L'entrevue au ruisseau. L'eau nous sépare. Écoute bien. Si tu fais un pas, tu n'as rien. Voici ma plus belle ceinture. Elle embaume encore de mes fleurs. Prends les parfums et les couleurs. Prends tout. Je m'en vais sans parure. L'eau nous sépare. Écoute bien. Si tu fais un pas, tu n'as rien. Sais-tu pourquoi je viens moi-même jeter mon ruban sur ton sein? C'est que tu parlais d'un larcin. Et l'on veut donner quand on aime. L'eau nous sépare. Écoute bien, si tu fais un pas, tu n'as rien. Adieu. Ta réponse est à craindre, je n'ai pas le temps d'écouter. Mais quand je n'ose m'arrêter, n'est-ce donc que toi qu'il faut plaindre? Ce que j'ai dit, retiens-le bien. Pour aujourd'hui, je n'ai plus rien.
L'intermittence, on pourrait en faire un petit peu l'emblème de, à la fois de la vie de Desbordes-Valmore et de son œuvre, quelque chose qui est toujours à recommencer, toujours à reconquérir, comme si, d'une certaine façon, il n'y avait pas le vieillissement de la vie, comme si le rapport à la parole et le rapport au monde étaient toujours neufs, toujours celui de l'enfant un petit peu, qui est l'enfant, c'est le grand modèle de Desbordes-Valmore, et comme s'il n'y avait pas de savoir non plus qui est résulté de l'existence et de l'expérience, et comme si tout était toujours à réapprendre. Bon, et puis il y a un autre mot aussi qui est un mot qui me paraît très Desbordes-Valmorien, c'est la fièvre. La fièvre, qui est un mot qui revient dans les poèmes, surtout dans les premières élégies et dans les lettres, pour définir son état, je dirais son état de création poétique, et aussi son état d'être au monde. La fièvre, cela veut dire deux choses, ça veut dire trois choses, ça veut dire la souffrance, bien sûr, et la maladie. Cela veut dire un état qui est à la limite de la perte de maîtrise du sujet sur lui-même, qui permet ces moments où la parole naît hors du contrôle, comme si celle qui parle ne savait pas exactement ce qu'elle allait dire ou ne maîtrisait pas absolument sa parole et était en proie au surgissement de l'inconnu. Et puis c'est aussi un rythme, un rythme fiévreux. Elle emploie à plusieurs reprises l'expression de frappement fiévreux pour évoquer l'écriture des premières élégies. C'est un rythme, un martèlement dont elle dit qu'il est venu d'une sorte d'obsession qui l'habitait. Et alors dans un passage d'une lettre à Sainte-Beuve qu'on a souvent cité, elle explique ce frappement fiévreux par une sorte d'intériorisation de la musique, puisqu'on sait qu'elle a été d'abord actrice et chanteuse avant d'être poète. Et elle raconte, donc bon, il y a quelques libertés avec l'expérience biographique, mais peu importe, elle raconte dans cette lettre à Sainte-Beuve qu'à un moment donné, elle n'a plus été capable de chanter parce que sa voix la faisait pleurer. Et donc, elle s'est tue comme chanteuse, et dit-elle, la musique roulait dans ma tête malade, et donc de ce roulement de la musique intériorisée serait née la parole poétique, serait née la première élégie.
Vous aviez mon cœur, moi j'avais le vôtre. Un cœur pour un cœur, bonheur pour un bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu. La feuille et la fleur et le fruit lui-même. La feuille et la fleur, l'encens, la couleur. Qu'en avez-vous fait, mon maître suprême? Qu'en avez-vous fait de ce doux bienfait? Savez-vous qu'un jour l'homme est seul au monde? Savez-vous qu'un jour il revoit l'amour? Vous appellerez sans qu'on vous réponde, vous appellerez et vous songerez. Vous appellerez sans qu'on vous réponde, vous appellerez et vous songerez. Vous viendrez rêvant sonner à ma porte, ami comme avant. Vous viendrez rêvant dira, personne, elle est morte, on vous le dira, mais qui vous plaindra? Et l'on vous dira, personne, elle est morte, on vous le dira, mais qui vous plaindra?
J'aimerais en complément, peut-être en contraste de ce poème qui a l'air si féminin et qui est une lettre de femme, parler du poème dont je disais un mot tout à l'heure sur la répression de la deuxième révolte des Canuts en 1834, qui est un poème qu'on peut situer là dans une tradition de poésie politique, presque de poésie épique, qui irait des tragiques d'Agrippa d'Aubigné, Châtiment de Hugo.
Vous demandez pourquoi je suis triste. À quels yeux voyez-vous aujourd'hui le sourire fidèle? Quand la foudre a croisé le vol de l'hirondelle, elle a peur et s'enferme avec ses tendres œufs.
Donc ce poème est intitulé, a d'abord paru dans la revue du Lyonnais sous le titre « Pourquoi je suis triste ?» et dans le recueil de Pauvres fleurs en 1839, il paraît sous le titre « À monsieur à elle », c'est-à-dire qu'il se donne comme un poème adressé, encore une fois, en somme comme une lettre et comme une réponse à une demande. Et puis, peu à peu, se montrant comme l'oiseau agressé par le plomb, ce qu'elle appelle l'humaine tempête, partagée entre silence et chant, elle évoque le noir tableau dont elle a vu broyer les couleurs. Et là, il y a une rupture de ton qui est tout à fait évidente. Et avec le poids d'humanité que lui donne cette position de femme et de mère, et la légitimité aussi que lui donne cette position, elle témoigne d'abord, et très vite, elle dénonce.
Alors là, évidemment, il faudrait faire un peu de topographie lyonnaise ancienne, mais je résume, je dis qu'une maison qui n'existe plus était habitée par elle, près, tout près de la place des Terreaux de l'hôtel de ville lyonnais.
Marc Bertrand.
Elle voyait les cages, comme elle dit, de l'hôtel de ville, c'est-à-dire les caves, où l'on entassait les prisonniers, et elle voyait la place des Terreaux, où l'on exposait au pilori les prisonniers qui étaient envoyés au bagne. Et elle entendait les coups de fusil, comme le texte vous le dira, les coups de fusil qui attaquaient les manifestants, etc.
On a fusillé aussi des femmes, des enfants, des vieillards.
On a fusillé des femmes, des enfants, des vieillards. On a même fusillé des ouvriers qui s'étaient réfugiés dans deux églises lyonnaises. Le fait a été prouvé. Tout ceci sous le règne du très catholique Louis-Philippe, roi des Français. Voici quelques extraits du poème qui s'appelle « À Monsieur Antoine de la Tour », qui était un de ses collègues en littérature. Quand le sang inondait cette ville éperdue, quand la tombe et le plomb balayant chaque rue excitaient les sanglots des tocsins effrayés, quand le rouge incendie aux longs bras déployés étreignait dans ses nœuds les enfants et les pères, refoulés sous leurs toits par les feux militaires, j'étais là, quand brisant les caveaux ébranlés, pressant d'un pied cruel les combles écroulés, la mort disciplinée et savante au carnage étouffait lâchement le vieillard, le jeune âge et la mère en douleur près d'un vierge verseau dont les flancs refermés se changeaient en tombeau. J'étais là, j'écoutais mourir la ville en flammes, j'assistais vive et morte au départ de ces âmes que le plomb déchirait et séparait des corps, fête affreuse ou teintait de funèbres accords. Et un peu plus loin, savez-vous que c'est grand tout un peuple qui crie, on dirait du Victor Hugo ou de l'Aragon. Savez-vous que c'est triste une ville meurtrie, appelant de ses sœurs.
Savez-vous que c'est triste une ville meurtrie, appelant de ses sœurs la lointaine pitié, écousant linceul salivie de moitié écrasé au galop de la guerre civile. Savez-vous que c'est froid le linceul d'une ville, et qu'en nous revoyant debout sur quelques seuils, nous n'avions plus d'accent pour lamenter nos deuils.
Et alors le dernier vers, nous n'avions plus d'accent pour lamenter nos deuils, est repris presque trait pour trait dans le fameux poème « Par un jour funèbre de Lyon, dans la rue, etc. » que je vous lis tout de suite. Dans la rue, par un jour funèbre de Lyon, nous n'avons plus d'argent pour enterrer nos morts. Le prêtre est là marquant le prix des funérailles et les corps étendus troués par les mitrailles attendent un linceul, une croix, un remords.
Et les corps étendus, troués par les mitrailles, attendent un linceul, une croix, un remords. Les vivants n'osent plus se hasarder à vivre. Sentinelle, soldée au milieu du chemin, la mort est un soldat qui vise et qui délivre le témoin révolté qui parlerait demain. Des femmes. Prenons nos rubans noirs, pleurons toutes nos larmes. On nous a défendu d'emporter nos meurtries. Ils n'ont fait qu'un monceau de leurs pâles débris. Dieu, bénissez-les tous. Ils étaient tous sans armes.
Comme l'horloge de la place Valmy furent toujours pour nous le rappel battant de l'un des gestes d'insurrection les plus purs parmi ceux qui furent, ceux des ouvriers de Lyon et des faubourgs attenants dans ces trois journées de la Révolution de juillet 1830, dites les Trois Glorieuses, qui, au plus profond de la faim, de la misère, de la fureur, du carnage et de l'oppression, tiraient sur les gardes des milices royales, mais tirèrent aussi sur les cadrans d'horloge pour abolir l'ordre du temps. Jamais vit-on geste plus limpide de fureur et de révolte, s'attaquant au mur du temps, car ils en ressentaient le fer, le joug, la loi d'airain dans la détresse muette impassible de leurs êtres. Toujours nous eûmes place Valmy un signe en direction de l'horloge, au pied de plusieurs forts d'où partirent les escadres de répression. Marceline Desbordes-Valmore, devant l'horreur criminelle, devant l'atrocité sanglante, devant ce massacre d'humains, écrivit ce vers, mausolée sans secours. La mort savante et disciplinée au carnage. Elle écrivit ces lettres déchirantes de miséricorde de sa seule main secourable et son cœur devenu foule, océan. Nous avons vu, écrit-elle, le sanglant panorama de juillet, cette terrible contre-épreuve de leurs trois pages écrites avec des balles. Que de morts innocentes! C'est l'émeute de la faim. Les femmes criaient en se jetant au-devant des coups. Tuez-nous, nous n'aurons plus faim. J'ai vu cette émeute étouffée sous le canon et le bon ordre, comme ils disent. La faim, le désespoir sont dessous. Les morts seuls ont compris la leçon. Elle n'est pas comprise par ceux qui survivent. les femmes, les enfants et enfin le peuple tout entier qui a passé au parti des ouvriers, dont le courage est autant plus inouï qu'ils étaient exténués de faim, en lambeaux. Ce peuple affamé, soyez-en sûrs, a été comme retenu par l'impossibilité d'être méchant. Cet immense phénomène n'a été signalé par personne, mais j'ai senti plusieurs fois fléchir mes genoux par la reconnaissance et par l'admiration. Nous attendions tous le pillage et l'incendie, et pas une insulte, pas un pain volé. C'était une victoire grave, triste pour eux-mêmes, qui n'ont pas voulu en profiter.
Ce qui est remarquable dans ces poèmes, c'est qu'il y a là une force, une indignation, une violence face à la violence.
Bien sûr.
Et c'est la même femme qui a écrit les élégies, les romances
oui,
et les poèmes d'amour.
Ça n'a rien de marcellinien si on entend par marcellinien l'ancienne manière, je vais être critique, un peu fadasse si vous voulez, de parler d'amour. Mais il y a tout chez elle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de poèmes d'amour. Mais il y a tout. Il y a les poèmes d'amour, il y a la politique, etc. D'où l'enthousiasme d'Aragon qui a écrit des poèmes d'amour et des poèmes politiques pour cette femme qui a écrit des poèmes d'amour et des poèmes politiques.
Oui, puis il y avait autre chose qui plaisait aussi chez Aragon, c'est ce côté chanson, ce côté ritournelle, ce côté refrain qu'on trouve chez elle.
Bien sûr, il a voulu, lui, revenir aux sources, si l'on peut dire, de la chanson française, et il aimait beaucoup le refrain, et personnellement, je suis persuadé que c'est en partie la lecture de Marceline qu'il a décidé de revenir à ce type de poème.
Un jour, sous les arbres du fleuve, pourquoi s'était-elle arrêtée ? Fallait-il qu'il pleuve comme il peut pleuvoir en été ? J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de faon. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant.
Aragon était fou d'elle.
Fou d'elle, il en parle d'une manière délirante, soit d'une manière détaillée, soit d'une manière approfondie. Approfondie, par exemple, dans le recueil « Les poètes », où il passe en revue tous les grands poètes, non seulement de France, mais d'humanité. Il y a Maïakovski, il y a Neruda, il y a toute une série de bons hommes, ou de dames. Et voici le quintil. Ciel sur le siècle et sur les armes, au-dessus du jardin des morts, ciel sur le saule et sur le charme, et voici l'étoile Valmore, s'il y a ciel, c'est pour les larmes.
Avez-vous jamais vu comment meurt un oiseau ? Une pierre soudain qui tombe dans la cage. Cela ne chantera plus, n'ébouriffera plus son plumage. Cela meurt droit, devenu plomb. Cela meurt, on dirait un meuble tombé dans ma tête. Une marche manquée, un mot pour l'autre. Un oiseau, que c'est triste, un oiseau qui meurt. Une phrase inachevée, un vers qui ne trouvera plus d'écho. Tiens, encore un poète mort dans le journal. Que j'aimais ma mère. Ma sœur, oui, ma mère. Je me sens à genoux devant son souvenir. Quelle suite et quelle liaison d'idées fondues ensemble ont depuis incrusté fortement son image dans cette scène d'hirondelle et d'orage. J'en ai froid. Et vous ? Surtout en me rappelant mon père, qu'il aimait avec une passion si grave, si sainte et si fidèle. Surtout en me rappelant ce nid où le mal abandonné se livra tout à coup à une douleur si frénétique et si puissante, qu'après avoir décrit plusieurs cercles de son vol irrégulier et nerveux, dans un silence imposant et lugubre, il se plongea tout entier dans le nid de ces pauvres jeunes, qu'il saisit d'un bec inflexible et acéré, remontant alors 4 fois vers le ciel, hélas, il avait 4 enfants, et comme pour rendre leur chute plus sûre, plus profonde et plus mortelle, il précipita les nouveau-nés de toute la hauteur de son essor sur le pavé de notre cour, où ils s'écrasèrent tous à mon désespoir.
Et vous tous aussi. Vous vous mîtes à crier, à courir, comme si vous y pouviez quelque chose. La tendre nicheuse ne bougea plus. Le mâle, triomphant, lui, remonta hérissé, frissonnant de toutes ses plumes, se posait devant sa femelle pantelante, pétrifiée d'horreur. Mais qui, furieuse à son tour, se jeta dans l'air sombre, sillonné d'éclairs, et se mit à le poursuivre avec une vélocité prodigieuse, surmontant les cris d'une horrible victoire par ses cris de mère et des imprécations à déchirer son gosier. Je vois, j'entends, j'éprouve encore qu'après avoir tous deux sifflé, tournoyé l'un sur l'autre jusqu'à nous éblouir, ils disparurent et qu'il tena. Le lendemain, il y avait des plumes et du sang par terre. Et le nid détaché était tombé sur les pierres. Peu de temps après, je naviguais avec ma mère, seulement ma mère, vers l'Amérique où personne ne nous attendait. Elle était muette, cette mère si charmante. Elle était loin de vous tous, avec moi, son plus jeune et son plus frêle enfant. Nous nous regardions avec épouvante, comme si nous ne nous reconnaissions plus. Elle me serrait le bras. Elle me collait contre elle, à chaque roulis de cette maison mouvante, fragile et inconnue, dont les mouvements la faisaient malade à la mort. Et enfin, ma sœur, après 3 mois encore, je revins seule, vêtue de noir, n'osant plus me bouger dans le monde, où la mort tourne toujours comme l'hirondelle furieuse. J'avais tremblé sous mon premier habit de deuil. À présent, tout à fait orpheline, me voici chez mon oncle, qui croit que je serai peintre et que je serai heureuse.
Les vers ne sont pas des phénomènes de mémoire, mais des expériences. Et alors, toute la question vient, là, de méditer l'oubli. C'est-à-dire être capable de se tenir dans la douleur sans sombrer dans le néant, quoi, déjà, d'une part. C'est ce qui est considérable. De pouvoir écrire l'horreur sans y sombrer, c'est-à-dire tenir le coup. Donc, d'avoir confiance dans la voix, d'avoir confiance entièrement dans la naissance, enfin. Et sur son parcours, c'est pour ça qu'elle accepte des défauts, parce qu'elle ne peut pas changer le... Dès que le temps initial est donné, chez elle, enfin, l'onde météore est déjà loin, quoi. Et elle suit, en quelque sorte, l'écriture. Je pense, effectivement, c'est complètement dans la naissance. Et puis, il y a quelque chose aussi chez elle, je pense, quelquefois, c'est des vers prophétiques, oraculaires, enfin des vers d'or, quoi, qui tombent. Et ces vers ne s'inventent pas, quoi. Ces vers sont donnés par la langue, je pense.
Et... Vous pensez à quoi, par exemple?
Oh, vraiment.
Il y en a plein, ce sont des fulgurances.
Oui, des fulgurances sans cesse. Vous voulez qu'on en prenne un ou deux?
Si ça vous vient, oui.
Par exemple, qu'est-ce qu'on on fait de ça comme... Sans deviner ce que c'est que mourir, devant la mort, je n'osais plus courir. On pleure dès qu'on aime. C'était beau d'enfermer dans une même enceinte la poussière animée, la poussière éteinte. Vers fulgurant, là, par exemple. C'était beau d'enfermer dans une même enceinte la poussière animée et la poussière éteinte. Quoi. C'est un peu des vers, justement, ce que j'appelle les vers d'or, qui sauvent le poème, quoi. C'est-à-dire qui courageusement parcourent le poème et, comme vous disiez, justement, ne cherchent pas à tenir en esprit, quoi. Hein. On pourrait en prendre d'autres, comme ça. Par exemple, ah oui, ça, ben, toi, voilà, cette adresse pure, quoi. Toi, les fleurs vont au soir, ne tombent qu'après elles. Bonjour, bonheur, adieu, 3 mots pour ton soleil. C'est-à-dire, elle remonte, justement, du puits ou du prisme toujours mal éclairé de la sensation, quoi. C'est-à-dire, vraiment, elle donne corps et voix à la sensation. Allez, ouvre-toi comme un prisme au soleil qui le dort. En plus, ce qui est très extraordinaire, elle n'a jamais peur de la répétition, quoi. C'est la grande répétition. Enfin, pour moi, un des poèmes les plus beaux, si je puis dire, parce qu'il y a des tonnes de pages, c'est « Les séparés ». Parce que ce poème, d'ailleurs, cette idée, ce concept de séparation qu'on a, c'est compliqué dans l'écriture parce que ça emporte toute la question de la biographie. Parce que justement, il y a quelque chose qu'on s'est amusé, quoi. Enfin, c'est le grand génie de Lacan quand même d'avoir penser la notion de signifiant, par exemple, de ces éprouvés distinctifs dans la langue. Mais par exemple, ce qui est oublié souvent de manière formelle, le signifiant ne se découpe pas dans la langue, sinon c'est complètement formel, il se découpe dans le lien vivant, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose d'aussi émouvant que la grande poésie dans la psychanalyse, quand quelqu'un qui souffre parle. C'est-à-dire, quand elle écrit les séparés, si c'était juste une pensée formelle, elle sépare quelque chose dans la langue qu'elle peut retrouver dans l'esprit. Tandis que là, c'est beaucoup plus proche des voix exilées qui parlent, de Rimbaud, de ses voyages de découverte dont on n'a pas de relation, dont parlait Rimbaud. Et quand elle écrit les séparés, c'est qu'elle est déjà de l'autre côté de la séparation, quoi. C'est-à-dire, elle est à l'intérieur de sa solitude, il y a quelque chose comme une unité, ni perdue, ce qui est là, quoi. Elle séjourne vraiment. Je pense que pour écrire des textes comme ça, qui sont presque rien d'ailleurs, il faut avoir traversé, quoi, plusieurs espèces de vie, quoi. Alors j'aime vraiment ce poème parce que c'est le ne pas, quoi. Et cette forme du ne pas, d'ailleurs, où elle entrevoit bien justement qu'au fond, on ne connaît pas ce qu'on connaît. C'est quand même ça, une des questions de l'écrire. Si on connaissait ce qu'on connaît, ce serait facile. Ou si on était capable de trouver sa voix spontanément dans ce dans quoi on pense, quoi, dans l'écriture aussi, ça commencerait quand même par se savoir. Et je pense qu'il est émouvant dans les grands poèmes, c'est que les poèmes se cherchent en se cherchant, justement. Puisqu'il ne peut pas y avoir de stratégie à cet égard. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs, qu'il faut accepter les défaites considérables, quoi, dans la poésie. Ces hécatombes comme des batailles sans Dieu ni raison. Parce que si on accepte ce qui rate, quoi, finalement, on rentre de vive voix. Alors moi, ce poème, Les Séparés, me touche toujours. Elle dit « N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'écris pas. N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi, si je t'aimais. Au fond de ton absence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas. N'écris pas, je te crains, j'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas. N'écris pas ces doux mots que je n'ose plus lire. Il semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois brûler à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunte sur mon cœur.
Il semble qu'un baiser les emprunte sur mon cœur. N'écris pas. Une vie, une œuvre. Marceline Desbordes de Valmore ou La transparence de la voix par Marie-Christine Navarro. Enregistrement Christian Fontaine, Marie-Dominique Bougot. Mixage Mireille François, Agnès Warnier. Réalisation Jean-Claude Loiseau. Avec Michel Demarcy, Christine Planté, Patrick Lopin, Françoise Baligan, Monique Mestayer, Francis Ambrière, Marc Bertrand, Georges Dautin, Georges-Emmanuel Clancier et Jocelyne Godard. Poème chanté et mis en musique par Radmila. Poème et extrait de l'œuvre en prose lu par Catherine Terouen et Annie Roman. Et poème lu par Hélène Martin et Louis Aragon.
Que mon nom ne soit rien qu'une ombre douce et vaine, qu'il ne cause jamais ni l'effroi ni la peine. Qu'un indigent l'emporte après m'avoir parlé et le garde longtemps dans son cœur consolé.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 9 mars 1995.